C'est un privilège d'être des vôtres. Je remercie les anciens pour l'invitation à vous rejoindre aujourd'hui. Et nous serons dans le psaume 139. Psaume 139. Du chef de cœur de David. Psaume. Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière et par devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce, ils t'invoquent pour tromper eux, tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours. Jardin d'Éden. Adam et Ève prennent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, ils essayent de se cacher parmi les arbres du jardin, de fuir Dieu. Jaffa. Jonas est censé se rendre à Ninive, mais il essaye de s'enfuir à Tarsis. Il descend au fond du bateau, il tente de fuir Dieu. Toulouse. nous, on commet tel péché, on en a honte. On sait que les conséquences risquent d'être difficiles à gérer. On essaye de cacher le péché. On essaye de fuir Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que ta parole est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, qu'elle soit à l'œuvre en chacune, chacun d'entre nous ce matin pour juger les sentiments et les pensées du cœur. Et donne-nous de trembler à cette parole. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. On essaye de fuir Dieu. On peut essayer. Le roi David l'a essayé à différents moments de sa vie. Il a au moins caressé cette idée avant d'écrire ce psaume. On le voit dans le verset 7. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Or, souvent, le péché en acte est l'aboutissement de péché en pensée qui surgissent dans des conditions de pression. D'abord la pensée amère, ensuite la parole cassante. D'abord la pensée de luxure, ensuite le geste illicite. D'abord la pensée orgueilleuse, ensuite l'accès de colère. La pression est là pour David. Il est même face à des hommes sanguinaires, verset 19. Une sœur m'a parlé récemment d'une amie qui est dominatrice, manipulatrice et qui provoque une forte pression chez elle, chez la sœur. Je pense que nous pouvons toutes et tous penser à de telles personnes qu'on côtoie ou que nous avons côtoyées. Et on réfléchit à comment réagir à de telles personnes plus qu'irritantes. Mais que pense Dieu de nos réflexions à ce titre? Et la pression peut se manifester par les nombreux soucis qui nous guettent côté santé, finances, famille, travail, études. David a son lot de préoccupations, verset 23. Comme nous, sans doute, en cette période de rentrée. Que ce soit en rapport avec nos actes pécheurs déjà commis ou des pensées pécheresses qui pourraient devenir des actes pécheurs ou des préoccupations qui pourraient donner lieu à des péchés. Ce psaume va nous livrer ce message ce matin. Ne fuyons pas Dieu. Ne fuyons pas Dieu, mais laissons-le nous conduire sur le bon chemin. Une première raison de ne pas fuir Dieu est qu'il nous coince. On voit cela dans les 12 premiers versets. Premier titre, Dieu m'assiège, c'est affolant. Et beaucoup d'experts disent que dans le psaume, on constate que Dieu sait tout, que Dieu est partout et que Dieu peut tout faire, les omnis qu'on a entendus tout à l'heure. Et notre Dieu est en effet aussi extraordinaire que cela. Il sait tout, il est partout et il peut tout. Mais dans le psaume, ces réalités ne sont pas évoquées de façon abstraite, mais sont appliquées à la vie de David. Il ne s'agit pas simplement de vérités théoriques, mais de vérités que chaque croyante et croyant peut connaître et confesser personnellement. Et oui, c'est ahurissant. Dieu nous connaît nettement mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il sonde notre cœur. Il nous examine à fond, verset 1er. Verset 2 et 3, il connaît tous nos mouvements, tous nos déplacements à l'extérieur de la maison et chez nous, dans notre vie privée. C'est comme s'il avait notre géolocalisation permanente sur son smartphone, sauf pour le fait que Dieu n'a pas besoin de smartphone. Et oui, lorsque personne nous regarde, Dieu nous regarde. Il sait mieux qu'une montre connectée à quelle heure précise nous sommes couchés hier soir, à quelle heure nous sommes arrivés dans ce bâtiment, combien de kilomètres nous avons roulé en voiture cet été. Bien plus, il connaît intimement notre pensée. Fin du verset 2. Nos projets, nos intentions, nos motivations, nos rêves, nos aspirations. Et oui, forcément, cela inclut les pensées d'amertume, d'orgueil, de luxure. Pensons-y, verset 4. Il sait exactement ce que tu diras. Si je peux tutoyer temporairement pour la durée de la prédication, si je peux tutoyer tout le monde, il sait exactement ce que tu diras immédiatement après la partie formelle de cette rencontre, ainsi que toutes les réflexions qui passeront par ta tête lorsque tu exprimeras ces paroles. Il sait déjà avec qui tu discuteras ce matin et cet après-midi, et dans quel but, et ce que tu choisiras de ne pas dire dans le contexte, et pourquoi. Il saura si ton interlocuteur a bien compris ce que tu voulais dire, même si cela reste un mystère pour toi. Dieu sait pourquoi tu envoies tel WhatsApp, pourquoi tu postes telle photo sur Instagram, avant que tu ne formules la phrase dans l'email ou dans le devoir, Dieu la connaît. Il sait pourquoi tu fais telle recherche sur ChatGPT, pourquoi tu consultes tel site web, comment tu remplis la déclaration de revenus. Tu as l'impression d'être coincé en quelque sorte par Dieu. Verset 5. Par derrière et par devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Avec Dieu, on est assiégé. Lorsqu'on est assiégé, on ne peut pas échapper. On est cerné de partout. Vous l'avez vu dans les films, la course-poursuite qui arrive à un cul-de-sac. Il n'y a pas d'échappatoire. Dans le film L'Agence, le titre original c'est « The Adjustment Bureau », dans ce film, L'Agence, les personnages utilisent des portes magiques pour se téléporter instantanément à différents endroits dans New York. Il y a plusieurs moments où les personnages semblent acculés ou piégés, menant à des situations qui ressemblent à des cul-de-sac, mais où ils finissent par trouver une porte pour s'échapper. Mais auprès de Dieu, il n'y a pas d'échappatoire. C'est échec et mat, dès avant que la partie commence. Lors du siège de Jérusalem au VIe siècle avant Jésus-Christ, le roi Sédécias a tenté de fuir. Figurons-nous la scène, une brèche est ouverte, Sédécias quitte la ville, il part à l'est. Il va dans la direction de Jéricho, il atteint les plaines de Jéricho. Si c'était depuis Toulouse, ce serait donc pas trop loin de Lavaur, certaine distance. Mais les Babyloniens poursuivent Sédécias et le capturent. Mais auprès de Dieu, il n'y a même pas de brèche. Il nous cerne, il nous coince, il connaît tout. Et oui, c'est affolant, verset 6. Cette connaissance étonnante me dépasse, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. On a peut-être déjà compris qu'on ne peut pas fuir Dieu, mais David enfonce le clou. Si jamais on pouvait aller plus loin que le roi Sédécias en quelque sorte, si jamais on pouvait arriver à être hors d'atteinte, cela pourrait être où? Logiquement, le point le plus élevé qui soit, le point le plus bas, le point le plus reculé, le point le plus ténébreux. Eh bien, jouons le jeu. Essayons cela. Verset 7. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Pas possible. Pas possible de fuir Dieu. Écoutez cette histoire. Un jour d'été, un père et son petit garçon passèrent près d'un champ de pastèques. Le père se mit à réfléchir. Personne n'est en vue, donc personne ne saura si je prends l'une de ces pastèques. Il dit à son enfant de s'asseoir sur la clôture et de surveiller pour voir si personne ne venait. Puis il se dirigea vers le champ. Arrivé tout près des pastèques, et avant d'en saisir une, il regarda attentivement autour de lui dans toutes les directions. Le petit garçon, voyant les regards scrutateurs de son père, lui dit, « Papa, il y a une direction dans laquelle tu n'as pas regardé, vers le haut. » Alors, repris dans sa conscience, le père abandonna sa pastèque et sortit promptement du champ. Mais peut-être que notre conscience ne nous inculpe pas. Si nous ne sommes pas consciemment en train de fuir Dieu, ces versets prennent une toute autre tournure. Si notre souci est de rester sur le bon chemin, si nous sommes heureux de demander à Dieu de nous montrer là où nous risquons de vouloir le fuir, eh bien ces versets ne sont pas menaçants. Ces versets sont rassurants, réconfortants. Face aux préoccupations que la rentrée présente, n'est-ce pas extraordinaire de savoir que Dieu connaît tout ce par quoi nous passons, y compris chaque détail de chaque épreuve? Durant une période de détresse dans ma vie, il y a une vingtaine d'années, j'ai repris à mon propre compte les premiers versets de ce psaume, jour après jour après jour, et cela m'a apporté un grand réconfort, et je n'hésiterai pas à le refaire. Normalement, pour nous croyants, être assiégés par Dieu, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? On aurait peur si Dieu n'était pas en train de nous entourer. On est heureux de ce que la main droite de Dieu puisse être constamment posée sur nous. On ne voudrait pas échapper à Dieu. À qui irions-nous? Si ce n'est au Dieu qui connaît tout dans notre vie. Mais c'est encore plus remarquable. Ce n'est pas simplement que Dieu connaisse tout dans notre vie. Il faut aller plus loin. Il orchestre tout. C'est notre deuxième point. Dieu orchestre tout dans ma vie. C'est époustouflant. On va lire à partir du verset 13. C'est toi qui a produit les profondeurs de mon être, qui m'a tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Oui, cela veut dire de A à Z. Dieu est aux commandes de chaque détail de ma vie, dès avant ma naissance. Vous aurez compris que le sujet de l'avortement est au cœur de la présidentielle aux États-Unis. Vous savez également que depuis 2022, plusieurs États aux États-Unis proscrivent l'avortement. Mais même avant 2022, le taux d'avortement aux États-Unis était en baisse significative de 15% durant les 10 ans jusqu'en 2021 et de 36% durant les 30 ans jusqu'à 2021. Pourquoi? Voici une partie en tout cas de l'explication selon les termes du professeur Carl Truman. L'effet des échographies montrant que le bébé dans l'utérus ressemble à une petite personne. Ces images tirent sur la corde sensible chez les gens et suscitent une réaction intuitive et émotionnelle. Fin de citation. Le bébé dans le ventre de sa maman est une petite personne. Dans notre assemblée à Bruxelles, il y a eu deux accouchements récemment, plusieurs chez vous, j'imagine. L'œuvre de Dieu en façonnant le bébé, par exemple, de Romain et Claudia, n'est-elle pas époustouflante? Verset 14. Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Je me souviens bien du moment de la visite à l'hôpital avec mon épouse Myriam lorsqu'elle était enceinte de notre fille Clara. Donc il y a un peu plus de 13 ans, j'ai la permission de ma fille ici pour parler d'elle. Et donc, on a appris à ce moment-là la nouvelle, grâce à l'échographie. Ce sera une petite fille. Attends, entendu. Mais bien avant cela, lorsqu'elle n'était qu'une masse informe, verset 16, Dieu la voyait. Et dès avant sa naissance, chaque jour qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, en 2024, était déjà déterminé par Dieu. Aussi le verset 16. Oui, le Dieu que nous adorons orchestre tout. Et oui, c'est époustouflant. Nous avons déjà parlé de nos pensées, de nos projets, de nos intentions, de nos motivations. C'était dans le verset 2. Et nous l'avons constaté que Dieu sonde nos pensées. Mais qu'en serait-il en sens inverse? Pouvons-nous sonder les pensées de Dieu? Eh bien, oui, une raison majeure pour laquelle on est là ce matin, c'est qu'on croit cela, grâce aux Écritures. Et en même temps, verset 17, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Vous avez entendu là tout à la fin un autre moyen dont on pourrait essayer de fuir Dieu en dormant. Mais là encore, Dieu est toujours là lorsque nous nous réveillons, lisons-nous. Ce sera une bonne nouvelle demain matin pour toi ou une mauvaise nouvelle? Tout dépend de notre tendance ou pas à vouloir fuir Dieu. Certains d'entre vous pourraient être en train de vous interroger, mais si Dieu orchestre tout dans ma vie, je ne suis pas moi-même responsable de mes actes. Et en plus, le mal doit être imputé à Dieu. Eh bien, réponse circonstanciée dans les groupes de formation de l'Église, en institut public, en lisant Le mal et la croix de Henri Blocher et le chapitre 9 de La prière renouvelée de Donald Carson. Mais entre-temps, non, en perspective biblique, le mal n'est pas moralement imputable à Dieu, même s'il est parfaitement souverain. Et la Bible ne nous permet pas de nous soustraire à nos responsabilités comme si nous étions des robots ou des marionnettes entre les mains de Dieu. Le fait que Dieu orchestre toutes choses et le fait que nous sommes responsables de nos actes sont compatibles en perspective biblique. Même si cela fait partie des pensées de Dieu que nous n'arrivons pas à sonder entièrement. Nous sommes responsables de nos actes et nous avons une troisième raison de ne pas fuir Dieu. Dieu est saint. C'est terrifiant. Lisons à partir du verset 19. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce. Ils t'invoquent pour tromper eux, tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement. Ils sont pour moi tes ennemis. J'ai lu un commentaire évangélique comme quoi David serait critiquable pour sa haine envers ses ennemis-là. Mais David reflète les attitudes qui conviennent dans le cadre de l'ancienne alliance qui régit sa vie. Dieu est parfaitement saint et il est normal de souhaiter que les ennemis de Dieu soient jugés. Même nous, à l'époque où nous sommes de l'histoire du salut, nous prions « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Viens, Seigneur Jésus. » Cela implique la destruction des ennemis de Dieu lors du jugement à venir. Nous avons une sainte jalousie pour l'honneur du nom de notre grand Dieu, n'est-ce pas? Nous avons été blessés intérieurement par bien des aspects de la cérémonie d'ouverture des JO, n'est-ce pas? Même si nous comprenons que la France n'aspire pas à être une nation chrétienne. Nous avons hâte de voir le jour où tout genou fléchira devant Dieu et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre attitude n'est normalement pas trop éloignée de celle de David. Selon les termes de l'un des commentateurs, quelqu'un dont la pensée est saturée de Dieu brûle d'envie de voir le mal éradiqué. Et je pense que c'est là l'explication de la présence de cette section, en cet endroit, dans le psaume, qui brusque certaines personnes. Lorsqu'on est convaincu que Dieu sait tout et partout, peut tout, il est normal que notre cœur lui soit intégralement consacré, qu'on brûle d'envie de voir son nom sanctifié. Ce qui change pour nous dans la nouvelle alliance, c'est que notre démarche auprès des ennemis de Dieu n'est pas de la haine, mais de l'amour. Nous bénissons ceux qui nous maudissent, nous prions pour ceux qui nous persécutent, nous donnons à manger à nos ennemis, nous leur annonçons l'évangile. La vengeance appartient à Dieu et notamment au jour du jugement. Et oui, c'est une perspective terrifiante pour quiconque n'est pas en règle avec Dieu. Je pense à quelqu'un que je connais depuis une quinzaine d'années qui s'est converti durant cet été qui vient de s'écouler. Et bien qu'il y ait de nombreuses raisons pour lesquelles on est dans la joie lorsque quelqu'un se tourne vers le Christ dans une démarche de repentance, de foi, certaines des raisons, en tout cas, figurent dans notre passage. Cet homme qui est maintenant en règle avec Dieu n'est plus dans la catégorie ennemi de Dieu. Il reconnaît que Dieu est Dieu. Et si tu es là et que tu n'es pas encore, tu n'es pas encore en règle avec Dieu, si tu n'as jamais reçu le pardon de tes fautes, ne tarde pas à te tourner vers Dieu. Nous l'avons vu, il n'est pas possible de fuir Dieu. N'attends pas le jour du jugement pour découvrir cela. Dans quelques instants, nous verrons à partir de ce psaume le type de prière qu'il faudrait prononcer. Mais une fois en règle avec Dieu, il reste des luttes. Il y a quand même le besoin de ne pas fuir Dieu, mais de demander à Dieu de sonder le cœur et de nous conduire sur le bon chemin. Et là encore, nous allons voir dans quelques instants le type de prière qui convient. Et selon les cas, en parallèle avec une telle prière, il peut être nécessaire de confesser un tort à certaines personnes, de demander pardon à des personnes, d'agir pour changer le comportement. Ça aussi, je l'ai vu cet été. Dans d'autres cas, prononcer une telle prière peut vouloir dire confesser à Dieu des pensées impures pour les mettre à mort et nous laisser sur le bon chemin, nous laisser conduire sur le bon chemin. Oui, il y a ce chemin étroit et il faut rectifier le tir pour s'y trouver pour la première fois, pour la énième fois, plusieurs fois par jour. Mais oui, pour nous croyants et croyantes déjà dans la joie de notre salut, cette prière sera pour nous aussi, parce que nous avons affaire au Dieu qui nous sonde. Cette prière s'applique à n'importe quelle personne qui voudrait courir vers Dieu au lieu de le fuir. C'est pour tous les enfants de Dieu, soucieux de demander à Dieu de les conduire sur le bon chemin. C'est nécessaire. Parce que le péché nous guette, la pression peut se faire sentir et les préoccupations peuvent être nombreuses. Nous voudrons veiller à être sur le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est le chemin que nous empruntons si nous sommes au bénéfice de la mort de Jésus-Christ. Car lui, Jésus, a été face à des hommes sanguinaires, à un plus haut degré d'intensité que son ancêtre David. Ces hommes sanguinaires ont mis Jésus à mort sur une croix il y a 2000 ans. Et là, Jésus-Christ a assumé la punition que nos fautes entraînent. Et cela nous libère pour que nous demandions à Dieu de nous sonder. C'est ce qui nous oblige à prier que Dieu nous sonde. Un frère que je connais, qui a dû confesser des péchés graves, a dit en confessant et en pleurant, « Je ne veux pas aller en enfer. » Il était déjà croyant et un bon théologien. Mais Dieu avait sondé son cœur et l'avait coincé. Et lui avait bien compris la sainteté de Dieu. Mais si nous avons quand même peur de prier que Dieu sonde notre cœur, je comprends cela. La prière en question est dangereuse. Je le reconnais. C'est comme si nous consultions notre généraliste pour lui demander « Examinez tout. Dites-moi ce qui ne va pas. Je sais que j'ai pris de mauvaises habitudes. » Je sais que je vais devoir changer certaines de ces habitudes. Il pourrait y avoir pire. Il y a sans doute de mauvaises nouvelles que je vais devoir entendre. Pas de consommation de sucre, chiméo, intervention à haut risque. Dites-moi ce que je dois entendre. Pourquoi prier ainsi? Parce que face au Dieu qui sonde notre cœur, nous ne pourrions pas fuir. Il nous assiège. Il connaît tout dans notre vie. Et il est parfaitement saint. Autant vouloir que sa présence dans notre vie soit pour nous un sujet de joie et non une menace. Prier ainsi ne serait pas sujet à regret. Prier ainsi est un privilège. Et donc, c'est quoi cette prière exactement? Verset 23. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde. Si je suis sur une voie mauvaise, et conduis-moi sur la voie de toujours. C'est le genre de prière que nous pourrions prononcer régulièrement. Que Dieu nous sonde, que Dieu nous conduise sur le bon chemin.